Donc voyons maintenant les causes des conflits collectifs. Je vous propose d'abord quelques rappels étymologiques. Le mot conflit vient du latin confligere, qui signifie heurter. Et heurter vient du francisque urt, qui veut dire bélier, et qui signifie entrer rudement en contact avec quelque chose ou quelqu'un. Donc dans le concept de conflit, il y a deux éléments combinés. D'une part, une notion de mouvement, et d'autre part, une notion d'impact, de choc, de collision. Et lié à cette notion de choc, d'impact, une notion de préjudice. Et mon analyse m'a montré qu'il y a deux sentiments qui, lorsqu'ils sont combinés, multiplient les probabilités d'apparition de conflits ouverts. Le premier sentiment, c'est la peur. Dans le contexte de personnes au travail, voici quelques exemples de sujets d'inquiétude. Ça peut être la peur de devoir partir, du chômage, de l'avenir, de la réaction de son conjoint face à un changement, de ne pas pouvoir faire face à ses obligations familiales, de rester dans une situation insatisfaisante, ou de voir sa situation actuelle se dégrader, et plus globalement, c'est la peur du changement lui-même. Et j'ai identifié deux catégories de peur. La première, c'est la peur des dangers réels, c'est-à-dire qu'objectivement, effectivement, il y a un risque. Et la deuxième, c'est la peur de l'incertitude, des dangers supposés. Il s'agit là de dangers qui ne sont pas clairement identifiés, je dirais de menaces diffuses, et donc aux conséquences difficiles à prévoir. Et à l'évidence, le caractère obscur et mystérieux de ce dernier type de danger rend la peur qu'il suscite plus intense et plus difficile à raisonner. Le deuxième sentiment, c'est la colère. Il s'agit principalement de la colère liée à la perception de ne pas être reconnu. Et quand on parle d'être reconnu, et quand on parle d'un collaborateur, le collaborateur attend d'abord d'être reconnu de son chef. Et le fait de ne pas être reconnu par son chef peut se manifester de différentes façons. Il peut d'abord ne pas se sentir reconnu dans sa compétence. C'est « je suis un professionnel et je suis traité comme un débutant ». Dans son intelligence, ici on ne me demande pas de réfléchir, juste d'obéir. Dans son implication, je m'implique beaucoup dans mon travail, mon chef ne s'en rend même pas compte. Dans sa fidélité, je suis dans cette boîte depuis 10 ans, j'ai l'impression que si je pars demain, personne ne s'en apercevra. Dans chacun de ces cas, il y a donc un écart entre le retour que la personne a de son leader et celui qui lui paraîtrait cohérent qu'elle obtienne. Et ce décalage est perçu comme une incohérence, et la perception d'une incohérence entraîne un sentiment d'injustice, et le sentiment d'injustice entraîne la colère. Et quand il y a colère, il y a toujours considération, perception d'un préjudice. Et le préjudice que perçoit la personne est lié à l'écart que la personne constate et qu'elle considère comme inéquitable, injuste. Or, la vertu première qu'un collaborateur attend de son leader est certainement l'équité. Les gens ne cherchent pas l'égalité, ils cherchent l'équité. Et en la circonstance, cette attente est déçue. Donc, génération de colère. Voici quelques éléments complémentaires concernant la colère. J'ai identifié trois catégories de colère. Première catégorie, colère contre un élément extérieur qui n'est pas lié à une personne ou à un groupe. Lors de mon mariage, il se met à pleuvoir, j'éprouve une colère, j'allais dire, contre le ciel. Deuxième catégorie, une colère contre ce qu'une personne ou un groupe a fait. Par exemple, colère contre l'arbitre qui n'a pas sifflé la faute. Colère contre la direction qui me licencie. Colère contre mon fils qui ramène une mauvaise note de l'école. La troisième catégorie de colère, c'est ce que j'appelle la colère réaffectée. Il s'agit d'une colère qui est réattribuée, lorsque l'objet de ma colère est inconnu ou intouchable. Je peux être conduit à la reporter sur une autre personne ou sur un autre groupe facile à identifier ou accessible. Par exemple, premier cas, objet inconnu. Dans un groupe international, mon service est supprimé suite à une décision, comme on dit, prise en haut lieu. je peux être amené à réaffecter ma colère sur le patron de mon unité. Parce que pour moi, il incarne cette direction générale invisible. Autre option, c'est objet intouchable. Imaginons que je subisse un préjudice suite à une décision prise par une personne qui a une autorité morale ou disciplinaire telle que je n'ose même pas exprimer mon mécontentement. Et je peux même ne pas oser ressentir de la colère contre cette personne. Dans ce cas-là, je peux soit étouffer ma colère, soit la réaffecter sur une autre personne ou sur un autre groupe que j'appelle plus accessible. Et là, je rentre dans le phénomène du bouc émissaire. Un autre élément concernant la colère, quand l'objet de la colère est une personne ou un groupe, il y a deux catégories possibles de colère en fonction de la nature de cette colère. Il peut y avoir une colère contre ce que la personne ou le groupe a fait. Par exemple, je suis très en colère parce que là, vous avez vraiment fait une grosse bêtise, pour ne pas dire autre chose. Deuxième possibilité, c'est une colère contre ce que la personne ou contre ce que le groupe est, du verbe être. Il est vraiment nul. Et ces deux types de colère ont des conséquences très différentes. D'une part, dans leur conclusion. La première peut conduire à chercher des moyens pour améliorer une situation ou un comportement. Vous avez fait une bêtise, je vous demande de réparer et je vous demande de vous engager à ne pas refaire. Pour la deuxième, comme on dit, hein, quand on est bête, on est bête. Et le message qui est derrière, c'est, comme disent les jeunes, nos futurs. Il n'y a pas d'espoir. Ces deux types de manifestations de colère ont des effets différents aussi dans les incidences qu'elles ont sur les personnes ou les groupes qui sont ce que j'appelle cibles de la colère. La première peut être porteuse d'énergie pour s'améliorer. La réaction à cette colère est potentiellement constructive. La deuxième peut conduire à trois types de réactions possibles qui sont, de mon point de vue, également stériles. La première, c'est j'accepte la dévalorisation. C'est vrai, je suis vraiment nul. La deuxième, je me défends de cette dévalorisation en la réadressant, entre guillemets, à l'émetteur. C'est pas moi, c'est toi qui es nul. T'avais qu'à, hein. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? T'avais qu'à me donner des consignes plus précises, etc. Et la troisième, c'est je fais semblant d'accepter la dévalorisation. Et je vais tendre un piège à l'autre pour que, à la fin du jeu, ce soit lui qui, à l'évidence, soit l'abruti de l'histoire. Un exemple, hein. Manuel, t'es vraiment nul. Je t'ai déjà dit 100 fois de charger le camion avec les palettes. Réaction de Manuel. Oui, chef. Le chef revient quelques instants après, le camion est aplati sous les palettes. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es pas fou? Mais chef, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai chargé le camion avec les palettes. Mais il fallait pas charger toutes les palettes. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit, chef? C'est ce que j'appelle la vengeance du serpent à plumes. Et c'est imparable. En fait, le collaborateur utilise beaucoup d'intelligence à faire croire à son supérieur qu'il accepte de passer pour un imbécile. Et il manipule la situation pour que, à la fin de l'histoire, ce soit le chef qui se retrouve dans le rôle du benêt. C'est une variante de la résistance passive. Gandhi a fait plier l'Empire britannique avec la résistance passive. Je ne connais aucune organisation dont la direction a le pouvoir de l'Empire britannique au temps de Gandhi. Dernier petit exemple, vous savez, c'est la secrétaire qui sait que son patron part en voyage. Son patron énervé la rabroué. Elle le voit en train de boucler son attaché-caisse. Il prend son manteau, il s'en va. Et elle a un petit sourire quand elle regarde le billet d'avion qui dépasse de son sous-main qui est resté sur le bureau. Voilà, la vengeance du serpent à plumes. Alors je détaille ces éléments et les moyens de s'en prémunir dans le livre 2 qui est les outils de communication appliqués au management.